Vous écoutez On lit pour vous.
Phénomène TikTok. L'essor inquiétant du mâle Sigma. Un texte de Florence Dancause, paru le 13 avril 2025 dans La Presse. Samuel Tanner et François Gilardin, de l'École de criminologie de l'Université de Montréal, U2M, se sont intéressés à la masculinité Sigma après avoir été eux-mêmes confrontés à ce contenu qui va jusqu'à la haine des femmes sur TikTok. Les résultats de leur projet de recherche ont été publiés dans la revue Social Media and Society. Tour d'horizon de ce phénomène numérique qui inquiète les chercheurs. Différent du mâle alpha. Le mâle sigma veut remplacer le modèle traditionnel de masculinité à travers la domination et le contrôle des femmes et des autres genres, explique le professeur Samuel Tanner. L'alpha, c'est le leader d'un groupe. Le mâle sigma, c'est plutôt un loup solitaire. Il est vraiment axé sur son développement personnel, met en lumière François Gilardin. Le mâle sigma se concentre sur son succès financier et son apparence physique. Il impose une distance avec les autres et en particulier avec les femmes. Il va garder un certain contrôle et s'empêcher de toute forme de vulnérabilité ou de sensibilité à l'égard des autres, ajoute le doctorant. La tendance découle de la manosphère, des communautés antiféministes et misogynes actives en ligne où se déploient plusieurs contenus, notamment ceux plus radicaux de type incel, qu'on a pu voir dans la série Adolescence sur Netflix. Patrick Bateman, visage du Sigma. Les chercheurs ont visionné 960 vidéos TikTok affublées de mots-clés reliés à Sigma pendant un mois et analysé plus en profondeur 195 d'entre elles. Une évidence s'est dégagée. La culture populaire est omniprésente et le personnage du film de l'an 2000 American Psycho, Patrick Bateman, un homme d'affaires aussi tueur en série, est l'icône du mâle Sigma. Samuel Tanner, professeur à l'École de criminologie de l'Université de Montréal, dit « Il galvanise son entourage, mais il évolue seul. Il est dans le contrôle, dans la discipline, le sport, et c'est aussi un modèle ultra-capitaliste. » À la fin de vidéos où on voit par exemple un homme qui met les femmes à distance, il y a un GIF de personnage de Patrick Bateman qui sourit ou rit aux éclats, explique le professeur de criminologie. On peut comprendre qu'il fait une expression d'assurance pour dire « Ah, c'est bien fait !» Le personnage est même à l'origine du Sigma Face, une moue avec une bouche en bec de canard et avec les sourcils froncés. De l'indifférence à la haine des femmes. Les chercheurs ont divisé les vidéos en quatre catégories. L'indifférence à l'égard des femmes, leur rejet, ainsi que l'humiliation et la haine des autres genres. On parle de cyberharcèlement, d'incitation à la haine, de diffamation, mais aussi de formes non criminalisées mais néanmoins nuisibles, comme la promotion de stéréotypes avec des affirmations que la place de la femme est à la maison, indique Samuel Tanner. Le portrait des femmes dans les vidéos est peu reluisant. On a l'image de femmes vénales, de femmes qui sont attirées par le pouvoir et qui sont très instrumentalisantes envers les hommes, donne en exemple le professeur. Le contenu Sigma peut aller d'une vidéo montrant de jeunes femmes sur le lit d'un garçon complètement désintéressé et concentré sur son jeu vidéo, à une autre mettant en scène un homme qui offre des roses à une femme, se penche pour lasser ses souliers et lui reprend ensuite le bouquet des mains. Mais ce qui préoccupe encore plus les chercheurs, ce sont les vidéos incitant à la haine, surtout que le message peut passer inaperçu lorsque ce sont des extraits de films, dont le fameux American Psycho, qui sont utilisés pour affirmer les propos. Les hommes des victimes? Certains parlent de ce qu'on appelle une gynocratie, donc une société qui serait exclusivement contrôlée par les femmes et dont les hommes seraient les victimes, explique Samuel Tanner, qui rapproche cette théorie du complotisme. Certaines vidéos montrent du doigt une ingratitude dans la société et même dans le milieu familial face à l'homme, stéréotypé qui est pourvoyeur, illustre-t-il. Selon lui, le discours Sigma va justifier la place supérieure de l'homme dans la société et propage une désinformation genrée, des propos très liés au conservatisme ambiant, croit-il. Les jeunes hommes ciblés. Le contenu Sigma peut être pernicieux en utilisant l'humour et la culture populaire comme vernis, met en garde François Gilardin. Même si certains n'y croient pas, ils vont tellement le voir que ça le fait exister dans l'imaginaire collectif. Il n'y a pas, à proprement parler, d'influenceurs vedettes, indiquent les chercheurs, bien que quelques créateurs très connus, dont Squidgy et MrBeast, aient utilisé des références Sigma. Les jeunes sont particulièrement ciblés, puisqu'ils sont les principaux utilisateurs de la plateforme TikTok. Les chercheurs collectent des données pour savoir comment les jeunes adultes réagissent face à ce contenu. Déjà, certains jeunes hommes interviewés dans la deuxième portion de leur recherche ont indiqué qu'ils avaient modifié leur comportement, puisque le contenu Sigma vient avec des injonctions, rappelle François Gilardin. Certains ont effectivement pris tous ces contenus pour progresser au niveau du développement personnel, au niveau physique, comme aller au gym ou changer leur style vestimentaire. Certains ont expliqué clairement qu'ils pouvaient prendre plus de distance avec les femmes, être beaucoup plus froid, beaucoup plus insensible. En savoir plus. Plus de 3 millions. Nombre de publications avec le mot-clé hashtag Sigma sur TikTok. Source, Toxic Communication on TikTok, Sigma Masculinities and Gendered Disinformation, paru dans Social Media and Society. C'était Phénomène TikTok, l'essor inquiétant du mal Sigma, un texte de Florence Dancause, paru le 13 avril 2025 dans La Presse.
Cinq avancées en environnement au Québec. Un texte d'Alexis Riopel paru le 22 avril 2025 dans Le Devoir. Le vélo gagne en popularité. X à pédale. Selon des données toutes fraîches, les déplacements à vélo ont doublé à Montréal en l'espace de 5 ans. En 2023, les résidents des quartiers centraux d'Ahuntsic et à Ville-Marie effectuaient 11% de leurs déplacements quotidiens à bicyclette par rapport à 6% en 2018. Un bond prodigieux, soulignait récemment Blaise Rémillard du Conseil régional de l'environnement de Montréal. L'envolée concorde avec l'implantation du réseau express vélo, REV, mais aussi avec le remodelage post-pandémique des habitudes de travail. Dans l'ensemble de la métropole, la part modale du vélo est passée de 2 % à 4 % La hausse est belle, mais il faudra encore bien des tours de roue pour rattraper Copenhague, 41% des déplacements à vélo, Amsterdam, 32% ou Tokyo, 16%. Ajoutons qu'à Québec, ça bouge aussi. Depuis l'an dernier, on développe les corridors Vivacité, un réseau cyclable d'envergure. Quant au service de vélopartage Bixi, il est plus populaire que jamais et s'implante cette année à Sherbrooke, à Saint-Eustache, à Deux-Montagnes et à Saint-Lambert. Le chauffage fossile régresse. Le Québec se chauffe de moins en moins aux combustibles fossiles. Durant l'exercice 2023-2024, près de 13 000 systèmes de chauffage au mazout ou au propane ont été convertis à l'électricité, selon le gouvernement. En moyenne, une fournaise au mazout émet 5 tonnes de CO2 par année, autant qu'un trajet Québec-Winnipeg à bord d'un VUS à essence. quant au volume de gaz naturel fossile, ils ont reculé dans les bâtiments résidentiels, moins 0,7%, et les immeubles commerciaux et institutionnels, moins 1,4% en 2024, selon Énergir. Tout compte fait, les émissions de GES imputables au chauffage des bâtiments québécois diminuent. Elles sont à moins 37% par rapport à 1990. L'État légifère d'ailleurs pour continuer à faire régresser le chauffage fossile. Depuis la fin 2023, il est interdit d'installer ou de remplacer un système de chauffage au mazout dans une résidence. Le gouvernement a l'intention d'étendre cette interdiction au gaz naturel fossile dans les résidences neuves, possiblement dès 2026, puis dans l'ensemble des domiciles. Au moment de cette annonce, Andréane Brazo, une analyste de la Fondation David Suzuki, parlait d'un grand jour pour l'action climatique au Québec. Les aires protégées populaires. Fin 2022, le gouvernement du Québec s'est engagé à protéger 30 % de son territoire d'ici la fin de la décennie, à l'instar des pays signataires du cadre mondial de la biodiversité de Kunming-Montréal. En 2024, un appel à projet a été lancé pour créer de nouvelles aires protégées en territoire public méridional, toutes les régions sauf le nord du Québec. Les organisations et les citoyens ont répondu en masse. Au moins 320 propositions ont été acheminées au bureau du ministre. Un très grand succès, disait Alain Branchaud de la SNAP Québec. Tous ces projets ne seront pas retenus. Un processus de sélection est en cours. L'exploitation des ressources peut s'y poursuivre entre-temps, ce qui pourrait dégrader certains milieux. Cette initiative fait partie du plan Nature 2030 de Québec, doté de près $1 milliard. Ce plan, détaillé en octobre 2024, prévoit aussi l'agrandissement de 5 parcs nationaux. Il permettrait en outre la création de 3 nouveaux parcs, Dune de Tadoussac, Nibitchi et Côte de Charlevoix. Place aux véhicules électriques. Le parc automobile québécois est-il en train d'irrémédiablement basculer vers l'électricité? Au cours du dernier trimestre de 2024, 40% des véhicules neufs vendus dans la province étaient des véhicules entièrement électriques ou hybrides rechargeables. On comptait donc plus de 375 000 véhicules électriques immatriculés au Québec, un nombre en hausse de 124 000 en 12 mois. Cela porte la flotte électrique à 5,1% du parc automobile. Il est intéressant de souligner que la multiplication des véhicules électriques commence à écorner la domination des véhicules à pétrole. Depuis 2022, le nombre d'automobiles à propulsion fossile, hors hybride, est en légère baisse au Québec. Cependant, parce que les VUS continuent de gagner en popularité, la consommation totale d'essence et de diesel ne diminue pas. Sur l'ensemble de son cycle de vie, un véhicule électrique qui parcourt 300 000 km au Québec cumule une empreinte carbone au moins 5 fois plus faible qu'un véhicule thermique sillonnant les mêmes chemins. Le marché du carbone se muscle. Le Québec veut affûter son arme principale contre les GES, le marché du carbone. Créé en 2013, lié au marché de la Californie en 2014, le système de plafonnement et d'échange de droits d'émission de gaz à effet de serre, SPEDE, vise les grands émetteurs, comme les raffineries, les cimenteries et les alumineries. Les experts le jugent utile, mais perfectible. L'automne dernier, le ministre Benoît Charrette détaillait ses intentions pour réformer le SPEDE. Il prévoit notamment d'éliminer des droits excédentaires accordés avant 2020 et de limiter l'utilisation des crédits compensatoires qui proviennent en majorité de projets forestiers peu bénéfiques pour le climat aux États-Unis. Cette réforme devra se faire de manière coordonnée avec la Californie. Il y a quelques jours, le gouverneur de cet État, Gavin Newsom, a confirmé sa volonté de maintenir le système après 2030, malgré l'hostilité du président Donald Trump envers l'instrument. Pour l'instant, au Québec, le SPEDE a permis de lever plus de 9 milliards de dollars pour financer des projets de réduction des émissions de GES. C'était 5 avancées en environnement au Québec, un texte d'Alexis Riopel paru le 22 avril 2025 dans Le Devoir.
L'héritage d'Elena Faïta, un texte de Caroline-Anne Boileau, paru dans Bel Âge. Figure de proue de la quincaillerie Dante et fondatrice de l'école de cuisine Mezzaluna, Elena Venditelli Faïta a fait tout un cadeau à sa famille et aux Québécois. Elle vient tout juste de publier son premier livre de recettes. Pas mal pour une dynamo de 77 ans. Les premières pages de La Cucina di Elena frappent fort. On y voit des portraits de femmes qui ont marqué sa vie. En admirant le mélange de photos d'époque et d'images récentes, le lecteur s'apprête à plonger au cœur d'une histoire familiale fascinante, celle où des immigrants ont choisi de quitter leur terre natale pour se construire une vie meilleure ailleurs, au Québec et à Montréal, de surcroît. Les chapitres sont bâtis en fonction des jalons importants du parcours d'Elena. Des recettes de famille y sont greffées, avec anecdotes en prime. On y apprend que son fils, Stefano, craque pour les souplis al telefono, ses croquettes de riz frites avec du fromage fondant qui s'étire comme un fil de téléphone. On découvre également une recette de tomates séchées, comme les préparait sa cousine Rachela. Et puis, il y a la salsa di Cristina, dont la photo nous met aussitôt en appétit. Au fil de la conversation, on apprend d'Elena que cette recette a été concoctée par sa fille, Cristina, très présente dans le quotidien de sa mère, malgré la distance qui les sépare. Elle habite en Italie. Elle signe d'ailleurs la préface du livre, un hommage senti et authentique à la femme qui lui a donné la vie et dont la province est tombée sous le charme depuis sa toute première apparition à la télé avec Clémence Desrochers. Le flair de Cristina. Habitués au visage de Stefano, les Québécois connaissent moins celui de Cristina. Pourtant, comme son célèbre frère, elle est la petite voix derrière sa mère. Elle est aussi l'instigatrice derrière la mise sur pied de l'école de cuisine Mezzaluna et celle qui a proposé une restructuration du commerce familial tenue à bout de bras par Elena et son jeune frère Rudy. Pour la rédaction, Elena a bénéficié d'un bon coup de pouce de ses enfants. D'abord, Stefano m'a expliqué comment écrire un livre. J'ai été instruite en anglais, alors j'ai écrit mes textes dans cette langue, la nuit. C'est à ce moment-là que les mots s'enchaînaient. Ensuite, j'envoyais mes textes à ma fille qui, elle, les traduisait. Elle m'a beaucoup aidée. Je n'ai jamais voulu qu'elle travaille au magasin. Je lui ai toujours dit « Tu es allée à l'université, fais ta carrière ». Cristina a toujours eu de bonnes idées et a su bien me guider dans ce projet. Un livre pour ses petits-enfants. Elena a refusé plusieurs offres d'éditeurs déjà. Il faut dire que passer 65 années à travailler dans le commerce familial, tout en enseignant la cuisine italienne pendant 35 ans, ça occupe beaucoup. jusqu'à tout récemment, écrire un livre de recettes n'était pas du tout dans ses plans. À la dernière offre, j'ai pris le temps d'y penser. Je crois que j'étais enfin prête à l'écrire. Mais je ne tenais pas à ce que ce soit juste des recettes. Je voulais transmettre notre histoire familiale et que ce soit une forme de legs à mes petits-enfants. Notre vie a été difficile et nous ne sommes pas les seuls. Les immigrants, comme nous, avons travaillé très fort. Je voulais aussi leur montrer cet aspect-là de notre vie. Mission accomplie pour Elena, qui nous présente un portrait chaleureux et authentique de sa famille et, qui plus est, 75 recettes italiennes qui font saliver. Ce beau livre trouvera sa place dans plusieurs pièces de la maison, de la bibliothèque culinaire à la table basse du salon. C'était L'héritage d'Elena Faeta, un texte de Caroline-Anne Boileau, paru dans Bel Âge.
Marc-Antoine Delage et le tsunami d'homophobie à Star Academy. Une entrevue réalisée par Samuel Larochelle, parue le 20 avril 2025 dans le magazine Fugue. Suivi par 630 000 personnes sur les réseaux sociaux, Marc-Antoine Delage avait l'habitude de recevoir des commentaires du public avant de participer à Star Academy, mais sa présence a fait ressortir tant de haine homophobe que la production a dû faire appel à la bienveillance. Néanmoins, le chanteur à la voix haut perché affiche une force de caractère impressionnante. « Que retiens-tu de ton aventure? » J'avais besoin de la vivre pour savoir ce que je voulais faire comme métier, si c'était la création de contenu ou la musique, et si je suis à l'aise sur une scène. Avec les réseaux sociaux, j'ai réussi tout seul dans ma petite bulle, mais j'allais moins en public et je performais moins sur la scène. Star Academy m'a permis de sortir de cette bulle et de faire ce que j'ai toujours voulu faire, de la musique. Sur scène, je me sens libre, je me sens bien, je me sens assumé. La production a tenté de calmer le jeu sur les réseaux sociaux pour protéger certains candidats, certaines candidates qui recevaient de la haine. Comment as-tu réagi en voyant ce qui s'écrivait sur toi? À Star Academy, on n'avait accès à rien de l'extérieur. On m'a donné mon téléphone le surlendemain de mon élimination. Je m'attendais à des commentaires méchants et chiants, mais à ce point-là, jamais. Il y a eu énormément de gratuité. Je ne pouvais pas non plus imaginer que ma famille se ferait ramasser. Comment expliques-tu le malaise envers les gays, les gars plus féminins ou les voix plus aiguës? À la base, plusieurs personnes sont incapables de voir quelqu'un de 20 ans s'assumer et faire des choses grandioses sur une scène. Les gens préfèrent voir quelqu'un échouer. Au Québec, on est souvent de même. On est une petite communauté. Voir les gens réussir à grande échelle, ce n'est pas facile pour certaines personnes qui aimeraient peut-être goûter au vedettariat. Il y a de la jalousie. Comme je fais partie de la communauté queer, on me perçoit comme une minorité et on s'attaque à moi. Tu as ressenti le besoin de faire une vidéo de mise au point sur tes réseaux sociaux pour dire à quel point tes proches étaient impactés par ce qu'elles voyaient. Mes sœurs ne s'attendaient pas à toutes ces réactions, car j'étais déjà connue sur les réseaux sociaux. Là, j'ai touché à une autre forme de végétariat dans les médias traditionnels et les sites à potins. Maintenant, quand je publie une vidéo, un article va en parler avec un titre sans aucun rapport avec le contenu de ma vidéo. Ça génère des clics, des vues et des commentaires. J'ai expliqué ça à mes sœurs. Tu montres beaucoup de force de caractère. Est-ce une carapace ou es-tu imperméable à tout ça? Je suis indifférent la majorité du temps, même si certains commentaires viennent me toucher. Je ne peux pas toujours m'en foutre. Certains messages viennent me frapper. Mais ce que j'ai fait sur la scène avant d'être éliminé, je me sentais grand de l'avoir fait devant des millions de personnes qui regardent le variété. Ça m'a laissé beaucoup de force. Qu'est-ce que ça t'a fait de voir ta mère exprimer son amour durant la vidéo « La vraie nature »? J'ai trouvé ça beau de voir que les mères peuvent soutenir leurs enfants. J'espère que les jeunes me regardent comme si j'étais un genre de safe space pour qu'ils puissent s'assumer et que leurs parents s'inspirent de ma mère de la même façon. Il y a de l'amour inconditionnel dans ce qu'elle a exprimé. D'où te vient ta passion pour le chant? J'ai toujours chanté en cachette. Quand mes parents partaient de la maison, c'était le party. À 10 ans, je me gardais souvent tout seul. J'étais autonome très jeune. Je me faisais à manger. J'utilisais une application de musique et je faisais des concerts dans ma cuisine. Puis, j'ai commencé à chanter en public à un party de Noël, à 13 ans. L'année suivante, je me suis inscrit à secondaire en spectacle et j'ai gagné un prix. Ensuite, j'ai commencé à suivre des cours de chant régulièrement. À Star Academy, quelles ont été tes plus belles rencontres? Celle avec Roxane Bruno et Lara Fabian. J'aime les femmes avec une prestance et une aura qui peuvent sembler intimidantes, parce que ma mère est comme ça. Roxane est une personne tellement vraie. Je l'ai vue au party d'après-finale le 6 avril et elle est venue me voir pour me dire « J'ai un conseil à te donner. Tous les sites comme Monde de Star, Narcity et les autres bloquent tout ça. T'es jeune, t'es gay, t'es beau, t'es assumé, t'as du talent. Tu as tout pour qu'on t'haïsse. Fais-toi plaisir, va pas là-dessus. On s'en sacre. » Quels ont été tes moments les plus difficiles? Les dernières semaines, je sentais venir la fin. Même si on a tous notre style, on se compare aux autres. Le public a ses chouchous et c'est bien correct. J'étais stressé. J'ai eu beaucoup de rencontres avec les psychologues et j'ai failli lâcher parce que je ne me sentais plus bien. Perdre le contrôle, ça a été difficile. Je n'avais plus accès à ma vie. On se faisait accompagner pour aller à la toilette. On se faisait dire quoi manger à telle heure. On perdait notre indépendance et nos repères. Comment la création de contenu sur les réseaux sociaux a-t-elle pris sa place dans ta vie? Un ex faisait du contenu. Je l'enviais beaucoup. Je cherchais à avoir un peu de visibilité. J'ai pensé à faire du contenu humoristique pour voir où je pourrais me rendre avant de plugger le chant. Je me suis lancé. Ma première vidéo a eu 100 000 vues. C'était peut-être le signe que je devais faire quelque chose. La deuxième vidéo a récolté 200 000 vues. En 3 mois, j'avais 100 000 abonnés. Aujourd'hui, j'en ai 630 000. C'était Marc-Antoine Delage et le tsunami d'homophobie à Star Academy. Une entrevue réalisée par Samuel Larochelle, parue le 20 avril 2025 dans le magazine Fugue.